La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si les fourmis se rassemblent, elles peuvent renverser un éléphant, dit-on au Burkina Faso, une nation en pleine transition. Et pour nous parler de ce pays des hommes intègres, comme on l'appelle en Afrique de l'Ouest, nous allons donner la parole à deux femmes du bout du monde, deux véritables héroïnes qui vont pulvériser les clichés. La première a fait seule le tour du Faso, 1200 km sur sa bicyclette avant d'ouvrir un restaurant à Ouagadougou. Bonjour, Mine de Grave.
Bonjour.
Merci d'être là. Depuis votre petit... c'est quoi? C'est un maquis? C'est un resto? Racontez-nous.
Bon, c'est un peu plus qu'un maquis. C'est un restaurant et c'est en plus un espace culturel parce que chaque vendredi, j'organise des spectacles et des concerts ici. Par des musiciens burkinabés, donc c'est un peu plus comme maquis.
D'accord, donc nourriture terrestre et nourriture spirituelle. On est les deux, oui, bravo, bravo. Depuis longtemps sur place, Mine?
Bon, je suis à Ouagadougou depuis septembre 2012, mais j'ai ouvert les restaurants en septembre 2013, un an après mon arrivée.
Alors, à 5801 km de vous et de son village natal, nous accueillons dans notre studio de la première à Bruxelles, Asita Kango. Asita, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous pouvez saluer notre Belge du bout du monde en morée ou en néerlandais, parce que vous parlez les deux langues toutes les deux.
Bonjour, Mine.
Néwindia.
Néhibéoho.
Ah, bah, bon, ici, le soleil est déjà bien levé.
Vous avez de la chance.
Alors, Mine a grandi dans le Westhoek et vous, Asita, vous êtes passé par Tilburg et Leuven, hein, je crois. C'était vos premières escales en Belgique.
Tout à fait.
Oui. Oui. Vous avez publié deux livres dont nous parlerons dans cette émission. Le premier sur l'excision et le deuxième, plaidoyer pour un nouveau féminisme, la deuxième moitié. Alors, à vos côtés, deux autres femmes de caractère, Catherine Tonero et Maria Malard. Bonjour, mesdames.
Bonjour à tous.
Alors, Catherine, amoureuse du Burkina Faso. Hein.
J'en reviens. J'ai été faire un stage de danse africaine, évidemment, en fin d'année dernière. J'ai adoré.
Je pense que vous savez danser mieux que moi.
C'est vrai.
Et Mariam, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un accélérateur de projet, donc un lieu où on accélère donc les startups, on les aide un petit peu à lancer leurs projets.
Un peu comme le foyer de notre Belge du bout du monde, Mine de Grave, avec nous ce matin jusqu'à 10h.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première.
Mine, vous êtes née en Afrique du Sud, vous avez bourlingué dans 18 pays différents sur le continent africain. Alors pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur le Burkina Faso?
Bon, parce que de tous les pays que j'ai vus en Afrique, c'est quand même le Burkina Faso qui est mon favori. Sur beaucoup de plans, ça n'a rien à voir, même avec ses voisins directs.
Ça vous donne le sourire, Asita Kango?
Oui, j'adore ce qu'elle dit, mais j'adore surtout l'accent. J'ai l'impression que je suis à Ouagadougou parce que Mine a attrapé l'accent de chez moi.
Voilà. Un accent flamand avec un petit peu
voilà,
de Burkina à l'intérieur.
Avec un petit peu de Burkina à l'intérieur, c'est peut-être un peu comme ça que je parle aussi.
d'ailleurs, vous dites Burkina et moi je dis Burkina. Quelle est la bonne appellation?
C'est Burkina.
Ah, Burkina. Eh bien, voilà, jusqu'à 10h, je vous promets de dire dorénavant Burkina, un pays authentique, Catherine Tonero, loin des grands flux touristiques, sans doute à cause de sa situation géographique. Il est véritablement enclavé, le Burkina, au cœur du Sahel.
Oui, le pays des hommes intègres, comme on l'appelle, est entouré par 6 pays. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il s'étend sur 274 000 km². C'est quasi 9 fois la Belgique. Compte près de 18 400 000 habitants, une soixantaine d'ethnies, dont les Mossis sont majoritaires. Sa capitale, Ouagadougou, est située au centre du pays. Un pays principalement musulman, chrétien pour environ un quart de la population, animiste et protestante. Dans une moindre proportion.
Le Burkina Faso est une ancienne colonie française.
Elle porte alors le nom de Haute-Volta, accède à l'indépendance en 1960 et sera rebaptisée Burkina Faso en 1984 par le régime militaire de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Thomas Sankara est assassiné en 1987 lors d'un coup d'État qui porte au pouvoir Blaise Compaoré, son ancien frère d'armes. Le multipartisme est instauré en 1991. Blaise Compaoré est élu, réélu, pour 4 mandats consécutifs. En 2014, il veut modifier la Constitution pour pouvoir se représenter à l'élection présidentielle de 2015. Des milliers de manifestants descendent alors dans la rue et finissent par le chasser après 27 ans de pouvoir.
Un pays qui évolue donc vers la démocratie, doucement, à son rythme. Il vient d'être reconnu comme pays partenaire par la coopération belge. Nous en parlerons tout à l'heure avec le ministre Alexander De Croo, qui nous rejoindra en studio vers 9h30. Ministre qui vous a accompagné, je crois, à Sita Kangou, dans votre pays natal. Est-ce que vous êtes passé par le baobab de Godir?
Non, hélas, on a eu un planning très serré et on a eu pas mal de réunions, pas mal de rencontres intéressantes. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'aller saluer mes amis d'enfance ou d'aller voir le gros baobab sous lequel j'ai eu l'honneur de naître.
Un 14 juillet, alors naître un 14 juillet dans une ancienne colonie française, c'est déjà un signe, hein?
Oui, c'est peut-être que j'étais déjà révolutionnaire à ce moment-là, qui sait.
Oui, j'ai l'impression. Et vous disiez à votre papa, un peu plus tard, que vous alliez diriger le pays.
Ah oui, c'était justement quand il y a eu l'élection après le coup d'État. Mes parents étaient déjà très impliqués politiquement, plutôt sankaristes. Et quand Thomas Sankara a été assassiné, ben, j'ai pleuré avec eux sans comprendre vraiment pourquoi. Je pensais que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et en 91, donc, quand il y a eu les élections, donc c'était juste un peu avant toute la publicité entre la libération de Nelson Mandela avant et quelques mois plus tard, donc la publicité de Blaise Compaoré qui était largué devant notre école par hélicoptère et mes parents qui se plaignaient du coût de tout cela et dans un pays aussi pauvre. Et j'ai découvert que on n'était pas seulement capable de devenir chef de classe comme je l'étais devenu,
chef
mais
de
qu'on
classe.
Pouvait
ah, voilà.
Aussi diriger un pays. Et je savais pas en fait qu'on pouvait passer d'une étape à une autre. J'ai appris à ce moment-là qu'on n'était pas président et qu'on pouvait le devenir, en fait. Et donc, moi, ça a commencé tout de suite à m'intéresser. Et j'ai dit que j'aimerais bien.
Oui, donc c'est pas mal comme parcours. Le baobab de Godir, et puis les petits villages, Thomas, Kera, Ténado, Koudougou, et puis la capitale où vous avez fait des études de journaliste, Ouagadougou. Et puis, vous n'êtes pas devenue présidente du Burkina Faso, mais conseillère communale à XL. Votre cursus à vous, mine de grave, vous avez fait des études dans des secteurs très, très différents.
Quand j'étais toute petite, j'ai vu le film de Gorillas in the Mist with Diane Fossey.
Gorille dans la brume,
oui. J'étais tellement impressionnée par son boulot, qui était le boulot d'anthropologue. Et donc, après mes études en langue germanique, j'ai continué avec un autre master. Ça s'appelait à Gand, ça s'appelait sciences culturelles comparatives. Mais en fait, c'est l'anthropologie, ou plutôt une critique à l'anthropologie. Et finalement, je suis arrivée à Ouagadougou pour faire encore complètement autre chose.
Comme quoi, il ne faut jamais abandonner ses rêves de petite fille. Hein. Vous ne poursuivez pas les gorilles dans la brume, mais vous êtes quand même à la tête d'un petit restaurant dans la capitale du Burkina Faso. Le Burkina qui est à la une de la première ce matin, en chanson aussi avec ZS. Écoutez bien son titre, ça parle de l'actualité là-bas.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Ça va barder ou ça va bien se passer, ça dépendra des politiciens burkinabés, chantait ZS en prélude à l'époque aux dernières élections du Burkina Faso. Nous en reparlons ce matin avec nos Belges du bout du monde. Mine de Grave dans son foyer à Ouagadougou, en duplex avec Assita Kangou et une autre personnalité politique belge que je vous présente dans une poignée de secondes.
Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot.
Avec nous aussi en studio pour nous parler du Burkina Faso, Alexander De Croo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes vice-premier ministre et ministre qui a aussi en charge la coopération au développement. Vous rentrez du Burkina Faso, c'est un des nouveaux pays reconnus par la coopération belge, pays partenaire.
Il y a deux nouveaux pays partenaires, la Guinée et le Burkina Faso. La raison, c'est que dans les deux pays, on peut dire qu'on tourne un peu la page. Guinée, après la catastrophe Ebola, Burkina, après bon, une révolution de démocratie de la population. Et on a voulu dire que bon, on veut appuyer une bonne évolution.
Oui, après 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, il y a eu les premières élections démocratiques et c'est une sorte de soutien à cette démocratie naissante.
Oui, tout à fait. Je pense que le soutien de la démocratie est un des piliers de la coopération belge. Quand on voit qu'il y a une évolution positive, comme on l'a vu au Burkina avec le ballet citoyen qui a joué un rôle important comme société civile, je pense qu'on ne peut pas se dire « Ah là, maintenant, on va attendre un petit peu, on va attendre 3-4 ans pour voir si ça fonctionne ». Je pense qu'à un moment comme celui-ci, il faut dire « Voilà, on est là ». On sent que la population a un peu l'impression que la démocratie va tout résoudre tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, on va devoir bien gérer ça. Mais on doit quand même appuyer une évolution qui est positive.
Vous rentrez du Burkina Faso, Catherine Tonero. Vous avez senti cette ébullition ?
Oui, c'est effectivement une société qui bouge. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. Plus de la moitié de la population au Burkina Faso est jeune. Et ces jeunes sont impliqués à un tas de niveaux. Maintenant, moi, je suis arrivée au Burkina juste avant un grave attentat, hein, on y reviendra, qui s'y est joué. Donc, je pense qu'il y a aussi un avant, un après. Mais inévitablement, cette transition passe par la jeunesse dans le pays.
On va faire un petit flashback avec vous, Catherine. L'histoire politique récente du pays a été très très mouvementée.
Hein. Bah oui, pour revenir pour les faits de l'histoire récente du Burkina, si vous les avez manqués, un coup d'état militaire éclate en septembre dernier. Il veut chasser les autorités de transition mises en place après la chute de Blaise Compaoré. Les putschistes prennent en otage le président intérimaire et d'autres ministres. Ils instaurent un couvre-feu. Des manifestations éclatent dans plusieurs villes du pays pour s'opposer à ce coup d'état qui se soldera par un échec. Les autorités de transition reprennent alors le pouvoir et des élections législatives et présidentielles sont organisées en novembre dernier. Elles portent au pouvoir Roch Kabore, ancien Premier ministre populaire, mais qui peine un peu à incarner le changement car le pays fait face à de multiples défis. Aujourd'hui, on y reviendra en fin d'émission.
Oui, le Burkina Faso est un des pays les moins développés au monde.
Un pays essentiellement agricole, il est confronté à des crises alimentaires chroniques. Près de la moitié des Burkinabés vivent avec moins d'un dollar par jour. Le Burkina Faso ne jouit pas, il faut le dire, de grandes ressources naturelles. L'or y a dépassé le coton comme premier produit d'exportation. Il contribue aujourd'hui à plus de 12% du PIB du pays, et qui produit aussi du sorgho, du maïs et du riz. Et c'est aussi un des pays les plus exposés à ce qu'on appelle l'injustice climatique. Il subit de plein fouet les conséquences du réchauffement planétaire, parmi lesquelles une désertification croissante et des sécheresses récurrentes.
On évoquait tout à l'heure l'esprit de Thomas Sankara, un peu le Che Guevara africain. C'est un de vos modèles sur place, mine de grave. Il vous a motivé dans votre parcours.
Oui, oui, c'est un peu l'icône du changement, du fait que, bon, parce que je viens d'entendre encore une fois que le Burkina est un des pays les moins développés, que les gens vivent en pauvreté, qu'il n'y a rien du tout comme ressources naturelles et tout. Ben c'est peut-être vrai, mais malgré tout ça, le Burkina serait très, très bien capable de vivre avec ses propres ressources, et c'est Sankara qui avait commencé à prouver ça. Donc on sent très bien que les Burkinabés croient toujours en ça et qu'il y a cet espoir de pouvoir réaliser ça dans l'avenir.
On sent que ça grouille hein, derrière vous, on sent que c'est plein de vie, on entend la musique, on entend les taxis brousse, on entend, ouais, c'est la vraie vie hein, de Ouagadougou, ça fait plaisir. Ouais. Alors Mine, vous avez une devise dans la vie, vous me l'avez envoyée en flamand, j'aimerais que vous la donniez d'abord en flamand.
Ma devise c'est « Haute de wood et half ».
Ce qui veut dire « garder la rage intacte, garder le feu sacré ». Ça c'est quelque chose
c'est
que vous avez toutes, hein, que vous avez toutes.
Ouais.
Oui, c'est bien. Vous avez des parcours étonnants. Vous, en arrivant en Belgique, à Sitakungo, vous avez fait des jobs de femme de ménage. Puis là, maintenant, vous avez une carrière internationale. Vous avez voulu réaliser vos rêves de petite fille.
En fait, ce que je trouvais humiliant, c'était de ne pas travailler. Je trouvais ça humiliant de ne pas être capable moi-même de gagner ma vie. Et j'ai dû attendre un peu pour avoir le droit de travailler. Et finalement, quand j'ai pu le faire, je n'ai pas trouvé ça humiliant du tout. J'ai eu l'impression de vivre, d'exister, enfin. et de pouvoir participer à la construction de mon propre avenir. Donc c'était très épanouissant et j'ai appris dans chaque chose que j'ai faite.
Depuis la femme de ménage jusqu'à la consultante.
aujourd'hui, je suis cadre dans une entreprise et j'ai appris énormément de choses et sans doute que je ne traite pas ma femme de ménage de la même manière que ceux qui ne l'ont jamais été. Pour moi, elle fait partie de ma famille. Je pense qu'il faut qu'on apprend énormément de tout le monde. Aujourd'hui, ma mère, qui vit en Belgique depuis 5 ans, est femme de ménage. Elle travaille dans des familles qui ont beaucoup de respect pour elle. Je trouve que c'est très important qu'on dans la société, on ne se rend pas compte de ce que chacun nous apporte. Mais si nos hommes ou nos femmes de ménage démissionnaient aujourd'hui, on aurait quand même des problèmes, je pense. Donc voilà, j'ai fait ça et je l'ai fait chez des gens qui m'ont respecté, d'autres qui m'ont moins respecté. Mais c'est la même chose dans tous les métiers. C'est quelque chose aussi que j'ai appris au Burkina. On parlait tout à l'heure de Thomas Sankara. Ce qu'il nous a appris, ce qu'il laisse derrière lui, c'est la fierté. C'est la fierté, c'est la dignité. Donc le fait de recevoir gratuitement de l'argent, ou le fait d'aller nettoyer une maison pour l'avoir, il y a une très grande différence. Et Sankara avait dit « Gloire à celui qui fait mieux que son père ». S'il existait encore, la féministe à moi lui aurait dit de dire « Gloire à celle qui fait mieux que sa mère ». On voudrait très bien. Et comme moi, il n'avait pas dit ça, j'ai essayé de faire mieux que mon père. Voilà. Et aujourd'hui, comme il y a une jeunesse très forte, quand on pense que 49% de la population burkinabé a autour de 15 ans selon l'UNESCO, on peut aussi comprendre pourquoi leurs parents ont à peu près mon âge, hein, parce que les gens ont des enfants très tôt. Hein, et ce sont des gens qui ont grandi avec l'esprit de Thomas Sankara et qui l'ont inculqué à des enfants qui étaient tout petits quand nous, on essayait de faire la révolution en 98. Donc la moitié du Burkina Faso est quand même pour la révolution. Donc à la place du gouvernement actuel, je ferai très attention.
Les Belges du bout du monde sont au Burkina Faso ce matin. Ne quittez pas, on a encore plein de choses intéressantes à vous dire, à vous raconter, à vous faire entendre sur ce pays des hommes intègres. A tout de suite.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Merci de suivre nos Belges du bout du monde au Burkina Faso avec aujourd'hui une sacrée bande de nanas au pays des hommes intègres. Assita Kango, Mine de Grave, Catherine Tenero et Mariam Allar. Je suis un peu seul et scellé dans ce girl power, mais j'ai appelé en renfort le ministre de la Coopération, Alexander De Croo, fasciné lui aussi par le Burkina Faso.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Mine, votre job sur place touche aux nourritures terrestres et spirituelles, puisque vous avez ouvert un restaurant qui s'appelle Le Foyer, un espace culturel avec des soirées tous les week-ends. Je crois que la vie est intense là-bas à Ouagadougou pour tous ceux qui aiment le cinéma, la musique, la danse.
Je pense que c'est une des raisons aussi, en plus de l'esprit de Sankara, pourquoi le Burkina Faso me plaît tellement. C'est de tous les pays que j'ai vus en Afrique, c'est le seul où il y a un tel développement de la culture, de la vie culturelle. C'est vraiment une énorme différence par rapport aux autres pays. Mais c'est souvent très difficile pour les acteurs culturels quand même de s'exprimer. On doit d'abord manger, nourrir les enfants et tout. Bon, déjà, d'investir encore l'argent dans la culture, c'est pas évident. Mais malgré tout ça, il y a tous les week-ends à Ouagadougou, on peut aller voir plusieurs concerts. Et bon, ce qui manquait un peu à mon arrivée, c'était des espaces où les artistes peuvent se produire en live. Parce qu'il y a une grande culture du playback. Je pense un peu en Afrique de l'Ouest en général. Mais bon, la vraie musique, c'est quand même le live. Et donc, les artistes sont vraiment à la recherche, les musiciens en particulier, à la recherche des espaces où ils peuvent se produire en live. Et c'est ça que j'ai voulu créer. Donc, chaque vendredi soir, on peut venir suivre un concert ici au foyer par un artiste burkinabé entièrement en live. Bon, et c'est bien parce que l'espace est pas tellement grand. Donc, c'est vraiment une dialogue très intense entre le public et l'artiste. Et après 2 ans et demi de concert, les gens commencent à vraiment connaître le lieu. Et donc, chaque vendredi, c'est un peu la fête ici.
Et c'est une Flamande qui a créé ça à Ouaga, c'est pas mal. Hein. Ça s'appelle le foyer. Catherine Tonero, vous témoignez, hein, la vie culturelle est intense. Vous, vous rentrez d'un stage de danse.
Voilà, exactement. Un stage organisé depuis 5 ans, en fait, en collaboration avec des partenaires français et belges, dont mon prof de danse africaine ici à Bruxelles, à XL. Chaque année, voilà, pendant plus d'une semaine, on nous permet de danser avec des danseurs professionnels ou moins burkinabés en formation. C'est un stage qui s'inscrit vraiment dans un projet qui va au-delà de la danse, hein, qui a réhabilité un centre de développement chorégraphique, la Termitière, qui était à la base un ancien théâtre populaire délabré. Ce stage permet à toute une série de profils de jeunes danseurs de participer à une formation professionnalisante de 3 ans, gratuite. Il y a des universitaires, des gens qui viennent de milieux précarisés qu'on va chercher pour leur donner cette perspective d'un autre avenir au travers de la culture, de la danse. Il y avait notamment 2 réfugiés maliens qui étaient là dans le cadre de ce stage. Et je peux vous dire, on parle de la jeunesse qui en veut au Burkina Faso. Moi, j'ai vu ce que ça donnait sur une piste de danse.
C'est danse avec les stars, version afro, c'est pas mal.
Voilà,
hein.
Exactement, afro contemporain.
Oui, oui, bien, bien, bien. Vous connaissez la Termitière, Mine?
Oui, 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 on est dans le même quartier même, donc souvent les gens de là-bas viennent manger au foyer et moi je suis souvent les spectacles là-bas aussi. Donc,
ah bien, voilà. qu'est-ce qu'il y a au menu ce dimanche au foyer? Je vous prends
là.
Un poulet bicyclette, qu'est-ce que vous avez préparé?
Il y a du poulet, oui, et c'est carrément du poulet bicyclette parce que moi, ma philosophie pour les restaurants, c'est d'utiliser le plus que possible les produits burkinabés et de les valoriser. Donc ici, il n'y a pas les grands poulets qui ont été congelés, donc c'est des vrais poulets burkinabés.
On dit poulet bicyclette parce qu'il est musclé, quoi. Il a beaucoup couru en liberté, quoi. Il n'a pas été élevé en batterie. Hein.
C'est... Et donc du coup, bon, souvent les étrangers sont déçus quand ils trouvent le poulet sur leur assiette parce qu'ils essayent de le manger avec une fourchette et un couteau, mais ça marche pas, quoi.
Il faut
vraiment prendre le poulet dans tes mains et bien...
C'est meilleur. Keep and spit. Alors, ça rappelle aussi le tour que vous avez fait du Burkina Faso à bicyclette. Ça, il fallait le faire quand même. Il y a un film de Benoît Mariage, on a mis un petit lien là en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde qui raconte le tour officiel du Burkina avec des cyclistes pros. Mais vous l'avez fait seul, sac au dos. Dites donc, vous aviez quel âge à l'époque, Mine?
J'avais 31 ou 32 ans.
Allez, ouais. une femme de 30 ans, vous vous imaginez Catherine Donnero seule, sac à dos, faire le tour du Burkina?
En bicyclette, franchement, non, il faut y aller.
Là, il faut y aller, hein.
Mais moi, pour faire seul le tour de la Belgique, je peux faire le tour d'XL.
Surtout que les pistes sont en latérite, les pistes sont rouges. Et comme on transpire un peu, on a facilement de la poussière rouge sur soi. Et on n'a
pas de lumière non plus, on n'a pas de lampadaire.
Oui, hein, oui, oui.
Pas partout en tout cas.
Oui, chaque soirée, à mon arrivée, j'étais toute rouge. Bon, en même temps, ça me donnait un peu de protection contre le soleil, je pense.
C'est pas mal. Ouais, bon, c'est une bonne ombre solaire.
Si à la fin de la journée, on trouve au moins un seau d'eau pour bien se laver, c'est pas un problème.
Ouais, il faut dire que la saison sèche est très longue, avec un temps chaud, ensoleillé, sec, et des vents de poussière qui viennent du Sahara, ouais, Catherine.
Oui, c'est ça. Moi, ça m'avait beaucoup marqué avant de partir. Je lisais sur mon application météo, il fait poussière à Ouagadougou. Je me demandais vraiment ce que ça voulait dire. Je l'ai compris en arrivant, effectivement, ce vent, hein, ces vents de poussière qui viennent du Sahara, en fait. Une terre rouge et qui vous prennent parfois à la gorge, mais qui constitue une sorte de protection solaire aussi, manifestement.
Allez, on va partir maintenant à la pêche aux initiatives positives avec vous, Maria Mallard. Cette semaine, vous allez nous présenter un incubateur d'entrepreneurs sociaux qui a ouvert en 2014.
Oui, alors cet incubateur, c'est un lieu de création, on l'appelle la fabrique. D'aspect extérieur, elle ressemble à une maison, les murs sont couleur ocre et au bout d'un chemin de terre, une petite cour. Mais dans cette maison, les cerveaux sont en ébullition. 5 startups y sont déjà installées. Elles travaillent là ensemble, dans un espace de coworking. L'objectif de cet espace de travail commun, faire grandir les projets des jeunes entrepreneurs.
Alors, est-ce que c'est simplement un lieu où on travaille ensemble ou il y a de l'accompagnement derrière tout ça, du coaching?
Oui, en réalité, la fabrique a été fondée par une jeune femme diplômée en commerce. Elle voulait mettre son savoir-faire à disposition d'un réseau de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de partenaires à proposer leur aide aux jeunes entrepreneurs. Des consultants, des ONG, des associations, ils sont tous là pour apporter leur soutien et leurs conseils. Que ce soit pour les phases de réflexion autour du projet ou à la mise en place du projet par sa concrétisation. De cette manière, plusieurs projets ont vu le jour. Par exemple, de jeunes entrepreneurs ont inventé un savon antibactérien et anti-moustique pour lutter contre le paludisme. Grâce à la fabrique, ils ont pu bénéficier de l'aide d'une compagnie internationale de produits cosmétiques.
Alors, comment financent-ils tous leurs projets ?
C'est aussi le rôle de la fabrique, accompagner les entrepreneurs pour leur business plan, leur stratégie, mais aussi pour monter des dossiers et récolter des fonds. Alors, pour bénéficier de ces avantages, les travailleurs payent évidemment un loyer mensuel pour occuper les locaux.
Alors, le Burkina Faso, c'est un pays très jeune, hein, on le disait tout à l'heure, et je crois que ça vous a marqué, Alexander De Croo.
On voit qu'il y a énormément d'enfants. Le taux de natalité au Burkina est de 7 enfants par femme et souvent par fille. Hein, souvent, les enfants en âge très, très précoce. Et ce qui, moi, m'avait frappé, c'est que quand on voit les villages, on voit énormément d'enfants, mais on voit chez les enfants les plus jeunes, on voit que des garçons. On voit pas de filles. Et où sont les filles ? Parce qu'une fois qu'on passe à l'âge de 8, 9, 10 ans, on voit les filles. Il disait, les filles, en fait, sont à l'intérieur. Parce qu'à un âge très jeune, quand même, on met les filles plutôt dans un rôle plutôt de servitude que les garçons qui ont beaucoup plus d'opportunités. Et donc, c'est un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup, c'est que les filles aient les mêmes opportunités que les petits garçons.
Ça vous parle, hein, ça, Sita Kango. Parce que quand vous étiez petite fille, vous étiez de corvée pour aller chercher l'eau pendant que vos frères jouaient au foot.
Oui, en tout cas, je n'étais pas dehors pour faire coucou aux voitures qui passaient. Ce que les enfants aiment bien faire au Burkina Faso, à la campagne. J'ai grandi à la campagne. Donc, on allait chercher l'eau qu'on portait sur la tête, ou on était dans la cuisine en train de piler le sumbala ou piler les autres légumes ou couper les oignons. Donc, on n'était pas très visible. On était préparé à devenir des femmes qui font la cuisine plus tard.
Oui, mais vous êtes révoltée, hein, parce que vous êtes déterminée, rebelle, ambitieuse aussi. Hein. Vous avez publié deux livres. Le premier raconte votre histoire personnelle, histoire d'une vie excisée, parce que tu es une fille. Vous-même, vous avez été victime de mutilations génitales dans votre pays natal, Asita.
Oui, tout à fait. J'avais entre 5 et 6 ans. Et donc, le premier livre concerne effectivement... C'était un essai autobiographique, donc ça concernait cette expérience en tant que petite fille et comment on la revit en tant qu'adulte, comment est-ce qu'on se reconstruit. C'est pas un ouvrage qui parle uniquement de l'excision, mais qui parlait aussi de la façon dont on cherche la liberté malgré l'excision et tous les corollaires, parce que ça n'arrive pas comme ça de manière isolée. Il y a toute une série de choses qui s'enchaînent. Et aussi partager mon expérience, parce que moi je vais bien, je voulais partager cette expérience avec les femmes qui ont subi l'excision. Et aussi m'adresser à celles et ceux qui pensent que c'est un problème qui appartient à d'autres personnes et qu'il ne faut pas s'en occuper, comme on l'a vu il y a quelques jours avec ces deux gynécologues américains qui ont plaidé pour une excision minimaliste, selon eux, je cite, afin de résoudre le problème. Donc voilà, c'est clair que couper, mutiler le clitoris d'une petite fille ne peut rien avoir de minimaliste et qu'on ne guérit jamais. En réalité, on dans le meilleur des cas, on peut seulement aller mieux. Et c'est comme si pendant l'enfance, on jetait un fil comme ça à la patte de la femme adulte que vous êtes pour vous ramener le jour où on veut. Donc on vous attrape alors que vous n'avez pas encore fini de grandir pour que plus tard vous soyez déstabilisée et réduite à ce qu'on a voulu faire de vous. Et ça, c'est le refus que je souhaite pour toutes les femmes qui ont été excisées, de dire finalement quelque chose m'est arrivé, mais je suis debout et je vais choisir la vie que je veux.
Oui, vous êtes une battante, hein, ça, le moins qu'on puisse dire. Mine de grave, vous êtes belge du bout du monde, une trentaine d'années, vous êtes née en Afrique du Sud, vous avez bourlingué dans 18 pays, depuis 3 ans et demi, vous êtes au Burkina Faso. C'est un sujet tabou là-bas au Burkina, l'excision, ou bien on en parle aussi dans la rue?
Bon, je ne dirais pas qu'on en parle dans la rue. Bon, je ne sais pas, je pense que ce genre de discussion, on va pas le faire public, mais je suis sûre que les femmes en parlent entre elles. Mais en tout cas, aussi dans la presse, on lit régulièrement des choses sur l'excision et la lutte contre l'excision. Il y a pas mal de... Quand on parcourt le Burkina, on croise quand même régulièrement des villages qui ont bon, la pancarte avec le nom du village. Et en même temps, il y a une autre pancarte qui dit, voilà, ce village lutte contre l'excision. Donc, de plus en plus, il y a une prise de conscience et la lutte grandit. Mais je pense que c'est toujours un énorme problème. Et donc, je suis avec beaucoup d'intérêt la lutte d'Assita Kanko et je la soutiens aussi parce que, bon, ça n'arrive pas seulement au Burkina Faso et il y a tant de pays où les femmes souffrent toute une vie à cause de, bon, des raisons qui ne sont même pas claires à qui ça sert, pas à quoi ça sert. Donc, voilà.
En tout cas, je suis heureux ce matin de vous donner la parole, surtout en cette semaine de Journée internationale de la femme. Ça continue sur la première dans les Belges du bout du monde. Après une femme, après une production musicale féminine, Temetane, qui nous interprète Amétis.
Les Belges du bout du monde sur la première.
C'était Temetane, une production belgo-congolaise dans nos Belges du bout du monde au Burkina Faso avec Mine de Grave dans son resto Le Foyer à Ouagadougou. Elle est en duplex avec Assita Kanko.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Mardi dernier, c'était la Journée internationale de la femme. Depuis votre enfance au Burkina Faso, vous êtes une féministe militante, Assita Kanko. Je crois que la polygamie de votre papa, déjà, ça vous énervait très fort, toute petite.
Oui, tout d'abord, mon papa est devenu polygame quand j'étais adolescente, au moment où je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Oui. Parce qu'il faut savoir que mon père et moi, on avait une relation très... on était très complices.
Très fusionnels,
hein, surtout pour la littérature, notamment. Et donc voilà, je ne m'attendais pas à ce que lui le devienne, et comme tout le monde, il l'est devenu.
Mais chez nous aussi, on est polygames, mais ça, c'est pas pareil. Il y a des hommes mariés qui sont polygames, on va dire officieusement, mais officiellement, ils sont mariés. Enfin, je veux dire, c'est culturel, mais ça existe partout, de façon différente.
Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a aussi des femmes qui ont des amants, en fait.
Excellent, c'est vrai.
Mais voilà, c'est une polygamie tout à fait différente, parce que, bon voilà, c'est déjà le mariage est...
Vous avez fait 15 partout, hein, c'est pas mal. Je dirais même 35, je sais, c'était match. Hein. C'est bien.
Non, ici, ce qui se passe au Burkina, c'est que les femmes n'ont pas vraiment le choix de cette polygamie-là qu'on leur impose. Et elles ne peuvent pas non plus dire « je m'en vais » parce que divorcer existe légalement. Mais dans la pratique, c'est le parcours de la combattante. Et quand je suis repartie au Burkina récemment, il y a un oncle éloigné de ma famille élastique qui avait une épouse en plus. Et quand ma sœur me l'a dit, je lui ai dit, mais c'est dingue, pourquoi est-ce qu'il a accepté d'avoir une autre épouse en plus? Parce qu'on lui a donné. Je lui ai dit, mais parce qu'au Burkina, on peut donner une femme à quelqu'un. Une famille peut donner une femme. Et elle m'a répondu, mais tu vis en Europe, tu as oublié. Est-ce que tu sais qu'il est impossible de refuser une femme? C'est très impoli. Et je me suis dit, waouh, c'est toujours comme ça pour les femmes ici.
Ouais. Vous en avez parlé, je sais que vous avez rencontré plein de personnalités politiques de haut vol. Vous avez rencontré Obama déjà ou c'est, comment ça se passe? Pas encore, d'accord. Ou alors c'est top secret, on ne sait pas tout. Bon, d'accord. Alors, c'est dimanche aujourd'hui. On est dans une bonne humeur ce matin, c'est sympa. On parle de thèmes graves, mais quand même avec le sourire.
On est optimiste.
Voilà, il faut. Vos loisirs, Mine de Grave, un dimanche, qu'est-ce qu'on fait de beau à Ouagadougou?
Il faut savoir que dès maintenant, dès le début de mars, il commence à faire extrêmement chaud. Donc, s'il y a un peu de moyens, la chose que les gens essayent de faire, c'est de se rafraîchir un peu. C'est aller
nager
au bord du barrage, l'eau, le peu d'eau qu'on a à Ouagadougou. Pour prendre un verre, une braquina très fraîche, de manger un poulet, de bien parler avec les amis et de passer quand même cette journée de chaleur un peu à l'ombre.
Un autre endroit où vous allez, ce sont les Bougainvilliers, hein, c'est pas très loin, c'est à Koubri.
Oui, exactement. Bon, et c'est un lieu qui est tenu par un couple belge, d'ailleurs. C'est un très bel endroit, c'est une auberge au bord des barrages de Koubri, donc au bord de l'eau aussi. Et voilà, on peut y loger, mais on peut juste y passer la journée aussi, boire un verre, manger un bon repas.
Moi, j'y ai passé mon 1er janvier, le jour de l'an. Et effectivement, c'est un endroit vraiment paisible et apaisant où on peut prendre un bon repas bio, lire un bon bouquin en bord de lac, donc dans une nature vraiment magnifique et des gens très accueillants, un couple de Belges, les Bougainvilliers.
Oui, je vous ai mis l'adresse dans le bouquin des Belges du bout du monde, à Sita.
Et j'irai d'abord voir Mina. Quand j'irai au Burkina Faso, donc en avril, je viens au Burkina Faso pour le travail. Je passerai voir un verre chez vous.
D'accord, ben voilà, les rendez-vous se prennent dans l'émission. Et c'est bien, et c'est comme ça souvent pendant la semaine, des choses s'organisent avec nos différents invités. C'est super. Les perspectives du pays, il faut en parler un petit peu. Catherine Tonnerreau, l'année a mal commencé pour le pays avec un attentat terroriste, on le rappelle, vraiment sans précédent. C'était le 15 janvier.
Oui, plusieurs attaques font 30 morts dans des lieux très fréquenté de la capitale Ouagadougou. Les victimes sont en grande partie des étrangers. C'est clairement le pire attentat qu'ait connu le pays. Il est revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Longtemps épargné par les attaques terroristes subies par ses voisins, le Burkina Faso voit sa politique sécuritaire mise à mal. Dans un contexte de transition démocratique à appuyer, c'est là un des principaux défis qui attendent le nouveau président Kabore, le défi sécuritaire.
Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas non plus de sécurité sans développement.
Effectivement, et l'indice de développement humain au Burkina Faso reste très bas. C'est le 183e pays sur 188, selon le dernier rapport des Nations Unies. Accès à l'eau et à l'électricité dans les zones rurales, accès aux soins de santé et à l'éducation aussi, évidemment. Sécurité alimentaire, justice, droits des femmes, les chantiers ne manquent pas. Les espoirs et attentes des Burkinabés non plus. C'est une population très jeune et dynamique, on en a parlé, en pleine croissance, de même que l'économie du pays. Tout le défi consiste finalement à traduire cette croissance en une vraie amélioration du quotidien de la population.
Oui, vous êtes optimiste, Mine, on vous sent, malgré cette actualité difficile, on vous sent combattante.
Oui, tout à fait, parce que je crois que, bon, je me joins un peu à la jeunesse burkinabé, c'est les gens que je vois tous les jours, mes amis. Je dis toujours que la culture aussi, c'est une force pour réunir, pour rassembler les gens, pour que, voilà, ils se font des plans, ils s'échangent des idées, et parce que le chemin sera encore très très long, ça c'est vrai.
Oui, alors pour les jeunes qui veulent s'investir dans la construction d'un monde meilleur, la coopération technique belge a lancé le concept d'expert junior, parce qu'il faut aussi rajeunir le concept d'aide au développement, Alexander De Croo.
Tout à fait, je pense que la vision sur la coopération est en fait... Je préfère plutôt utiliser le nom de développement international, parce que je pense que la coopération a quand même encore un peu...
De paternalisme.
C'est un peu de paternalisme. Je pense que le monde d'aujourd'hui est devenu multipolaire. On ne peut plus dire comme avant que les problèmes c'est dans le sud et les solutions c'est le nord. Je pense que nous, on n'est pas toujours le bon exemple non plus dans plein de choses. Et on voit que dans plein de domaines, l'évolution dans les pays du sud, comme on l'appelait, est en fait beaucoup plus rapide que chez nous. Si on regarde deux domaines, par exemple les paiements mobiles, donc l'utilisation de smartphones pour paiement, ce n'est pas en Europe que ça se développe. C'est surtout Kenya, Bangladesh qui sont à la pointe du progrès. Si on regarde les soins médicaux à distance, par exemple, c'est surtout en Afrique subsaharienne que c'est en train de se développer. Donc on voit que dans plein de domaines, en fait, la pointe du progrès, ce n'est plus en Europe. Et c'est une bonne chose. Je pense que ma génération, souvent, on disait, on va faire un don, on va essayer de donner et ça va aider. Maintenant, on ne donne plus, on investit. On s'investit soi-même dans cela. Et un programme comme celui que vous venez de citer veut en fait s'axer sur cette tendance-là.
Plus d'infos, de toute façon, sur cette filière d'experts juniors pour le développement sur la page Facebook des Belges du bout du monde ou sur lapremière.be. C'est déjà la fin de cette émission réalisée par Paul Michel. Merci à nos chroniqueuses Maria Mallard.
Merci.
Et Catherine Tonnerreau.
Avec plaisir.
Merci à nos invités, des femmes du bout du monde, des lionnes, Sita Kango et Mine de Grave. Allez, je vous laisse le mot de la fin, toutes les deux, Mine et Asita, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Mine, Barkusko.
Yeah. Bon, j'espère vraiment vous rencontrer bientôt en avril ici. au foyer et de pouvoir partager une bonne bière, une bonne braquinade très fraîche ici.
Ok, moi je veux bien venir faire le service et même porter la valise. Hein, il faut inverser un peu les rôles. Hein. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Bon dimanche là-bas à Ouagadougou et bon voyage à Sitakango vers votre pays natal. Le retour aux sources est important, hein, ça.
Ah oui, tout à fait.
Ouais. Allez arroser ses racines. La semaine prochaine, nous serons en Colombie, mais dans l'immédiat, sur la première, rendez-vous avec les décodeurs RTBF et Alain Gerlache. Ce sera juste derrière le journal parlé de 10h.
La première, podcast.